En 2080, les consommateurs de culture et de divertissement vont pouvoir faire plein de choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie pour l'instant.
On va pouvoir vivre des expériences artistiques absolument hallucinantes.
On pourra demander à Elvis de composer une nouvelle chanson juste là, devant nous.
Ça ne m'étonnerait pas que certaines personnes privilégient leur avatar à leur vie réelle.
On peut se passer d'un scénariste, d'un réalisateur. C'est l'ordinateur qui fait tout.
C'est extrêmement inquiétant pour tous les gens dont c'est le travail aujourd'hui, y compris pour moi.
C'est comme un terrain de jeu prêt à être exploré. Et on n'en est qu'au début. C'est super excitant.
Dans le monde du divertissement, il n'y aura plus les créateurs d'un côté et de l'autre les spectateurs. L'invention du virtuel aura tranquillement balayé toutes les frontières du monde de l'art. Est une de ces artistes aux confins de tous ces univers. Elle aime dire qu'elle sculpte la lumière, une matière aussi éphémère que ses œuvres. Bienvenue dans le métavers. En 2080, cet espace virtuel partagé par tous est devenu le théâtre de tous les divertissements. Immersif, à la portée de tous. Est une star, avec des fans dans le monde entier. Mais Io n'existe pas. C'est un avatar. Dans le monde réel, la jeune femme est un jeune homme de 25 ans. Est étudiant et s'épanouit moins dans ses études que dans le métavers. Il y accède par le seul biais de ses lentilles connectées. Là, il peut mener une double vie sans en avoir l'air.
Jusqu'ici, vous aviez des mondes bien séparés dans le divertissement. Les films, les jeux vidéo, les expériences immersives. À l'avenir, tout ça va fusionner et former quelque chose de complètement nouveau. Presque comme une nouvelle dimension, une nouvelle réalité. Il faut savoir que quand on parle de métavers, on parle d'un monde digital persistant qui a sa propre vie et qui évolue dans le temps. C'est vraiment un médium total. Et ça, c'est sûr que ça va émerger et devenir de plus en plus répandu pour tout le monde.
Avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, on commence à voir apparaître des tas de nouvelles expériences dans le divertissement. Par exemple, des histoires qui s'adaptent à vos actions, à la vitesse de vos déplacements, à votre interaction avec les personnages, à ce que vous leur dites. Mais il y a aussi d'autres nouveautés. Par exemple, le projet sur lequel je travaille en ce moment. Une expérience de danse immersive en réalité virtuelle interactive. Vous participez à un grand ballet classique en ayant l'impression de danser aussi bien que le danseur professionnel en face de vous. Vos vrais mouvements se coordonnent parfaitement avec les siens, parfaitement avec la chorégraphie, de manière un peu magique. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle pour vous donner l'impression que vous avez atteint un niveau de danse fabuleux juste pendant ce moment. Moi, je pense que toutes ces nouvelles technologies sont vraiment pleines de promesses pour le futur. Ça me rend très optimiste.
J'adorerais par exemple visiter des sites disparus, revivre de grands moments historiques,
interagir avec des personnes qui n'existent plus, faire des rencontres improbables. Des moments où on a l'impression d'être vraiment présent, même si c'est virtuel. J'espère vraiment que le divertissement nous permettra de vivre ça.
On pourrait avoir des agences de voyages virtuels où les gens réserveraient leur billet d'avion virtuel et partiraient virtuellement quelque part. Une personne pourrait très bien se balader dans les rues de Bangkok avec une combinaison intégrale simulant l'humidité étouffante, effectivement. On pourrait raréfier l'air, on pourrait donner une sensation de chaleur. Donc en fait, la personne ne ferait pas la différence entre le réel et le virtuel. Et donc à partir de là, le logiciel qui serait derrière permettrait de recalibrer l'environnement, de le rendre plus apaisant, moins stressant, etc. Au contraire, jouer là-dessus. Une personne peut très bien dire « Tiens, moi j'ai envie d'avoir peur en voyage. » Mais ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Demain, on pourra le faire. Moi, j'ai envie de faire un voyage où je vais prendre des risques, où on va essayer de me voler mes affaires, où un ours va m'attaquer, où je vais avoir un accident de voiture. Et tout ça, on peut le demander. Et ce sera fait à la demande, avec un contrôle évidemment, à la fois physiologique et neurophysiologique, pour éviter que la personne ait une crise cardiaque en pleine séance virtuelle.
Il y a tellement de choses à explorer. La présence physique dans le virtuel, ok. Mais est-ce qu'on pourra y ajouter le sens du toucher, du chaud, du froid? Comment on les intégrera au divertissement virtuel du futur? C'est un sacré défi, mais c'est aussi super amusant. C'est comme un terrain de jeu prêt à être exploré. Et on n'en est qu'au début, c'est super excitant.
Pour l'instant, on en est encore à essayer de comprendre tous ces nouveaux codes artistiques dans le virtuel. C'est aussi nouveau que quand le cinéma est arrivé au début du siècle dernier. Les gens croient toujours que quand les frères Lumière ont projeté leur premier film en 1896, ça y est, le cinéma était là. Mais ça a pris 40 ans. Il a fallu Méliès, Pathé, Gaumont et beaucoup d'autres pour savoir comment raconter des histoires avec cette nouvelle technologie, complètement révolutionnaire à l'époque. Et c'est la même chose qui se passe maintenant avec la révolution du métavers. On est en train d'apprendre à créer des histoires ou des performances artistiques pour ce monde en 3D, où les gens vont pouvoir se promener, interagir, socialiser et faire mille fois plus de choses que dans un spectacle classique aujourd'hui.
L'avenir du divertissement nous promet des expériences inédites. Mais que se passerait-il si ces univers virtuels nous faisaient perdre nos repères?
3, 2, 1,
Imaginons. Nous sommes dans le métavers. L'avatar de Tom n'en finit plus d'enchaîner les combats de MMA. Mais ici, le métavers n'est pas un espace de liberté. L'avatar de Tom se doit de ressembler à Tom. Toute fantaisie est interdite, toute originalité proscrite. Tom l'emporte et reçoit pour sa victoire une somme en Metacoins, la monnaie en vigueur ici. Une monnaie qui n'a de valeur que dans le monde virtuel. C'est pour l'argent que Tom se bat. Mais soudainement, il doit se déconnecter. Tom, le vrai, était assis en plein soleil. Perdu dans ses lentilles, il n'a rien bu et rien mangé depuis 20 heures. C'est la voix d'une enfant qui l'a ramené à la réalité. Cette double vie risque-t-elle de nous faire oublier le réel? Ou sera-t-elle au contraire une promesse de liberté supplémentaire?
Je pense que dans le futur, on aura tous probablement un avatar pour notre vie virtuelle. La forme sous laquelle on veut être ou exister dans les métavers, et ça va être quelque chose d'important. Si on est moche, si on est gros, si on est fin, enfin, tout ça disparaît. Et on peut se libérer de toutes ces choses. Moi, je trouve tout ça, même psychologiquement, ça peut être très libérateur, non? Et ça veut dire qu'on peut avoir une double vie quelque part, hein, en étant autre chose que ce qu'on est dans le monde réel, non?
Dans l'avenir, on pourrait imaginer les effets positifs de ce passage entre le monde réel, le monde virtuel et le retour du monde virtuel vers le monde réel. Je vais prendre un exemple très concret. On a mené une expérience où on a demandé à des personnes ayant à peu près les mêmes capacités cognitives d'incarner un avatar particulier. Alors il y avait un avatar qui était normal et un avatar d'Albert Einstein. Et on leur a demandé ensuite de réaliser des tâches complexes de calcul, de réflexion, etc. Et on s'est aperçu que pour un même niveau mesuré au départ, les personnes qui avaient l'avatar d'Albert Einstein étaient plus performantes dans les tâches qu'on leur proposait. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le retour au niveau du réel, c'est-à-dire que lorsqu'on leur a proposé ces tâches-là, non plus dans le monde virtuel, mais dans le monde réel, il y avait encore une trace, c'est-à-dire qu'elles réussissaient de manière plus importante ces tâches-là. C'est ce qu'on appelle, en réalité virtuelle, l'effet Proteus. L'effet Proteus, c'est lorsqu'effectivement, on adopte les caractéristiques de son avatar.
Dans les spectacles que j'ai créés en réalité virtuelle, les Bals de Paris, et j'ai eu des expériences très belles avec les handicaps. Un monsieur qui est venu, qui avait une canne, il marchait très mal, il me dit « Oh, j'ai besoin vraiment de rentrer avec la canne ». Donc il est rentré avec la canne et à un moment donné, il a oublié qu'il avait une canne. Et la canne, elle était… Et enfin, c'était très bizarre parce que c'était comme s'il avait oublié, avec son avatar et avec l'expérience, il avait oublié qu'il boitait et que la canne, il ne l'utilisait pas en fait.
La question de l'incarnation de l'avatar comme un moyen, je dirais, de s'épanouir. Alors, on a souvent en tête la personne plutôt inhibée ou timide. Et puis, finalement, elle incarne un avatar totalement extraverti. Et est-ce que ça lui fait du bien? Premièrement, oui, ça lui fait du bien parce que c'est un espace de jeu avec soi, de simulation de soi. Et puis après, c'est intéressant de toute façon de jouer avec son identité. On peut imaginer que d'un côté, on aurait un avatar hyper réaliste, qu'on appelle les meta-human, donc une sorte de scan total de ce que l'on est, avec même la capacité, avec certains casques maintenant, de pouvoir reproduire les émotions. Et puis nous aurons des créatures fantastiques, je dirais un peu à l'image d'un grand bal masqué, qui vont se côtoyer les uns avec les autres. Et c'est vrai que finalement, parce qu'il sera dans une interaction sociale de plus en plus poussée, aussi bien dans l'expression des émotions, dans l'immersion, ça ne m'étonnerait pas qu'au fond, certaines personnes privilégient leur avatar à leur vie réelle.
Et quid de l'individu? Est-ce que je suis moi dans le réel ou est-ce que je suis moi dans le virtuel? C'est ce qu'on appelle globalement le problème de la désindividuation ou la dépersonnalisation. Je peux être quelqu'un d'extrêmement honnête dans le monde réel et être un voleur et un sadique dans le monde virtuel. Et c'est pour ça que la notion d'identité est questionnante à ce moment-là. C'est-à-dire, qui devons-nous condamner? Peut-être qu'il faudra inventer des tribunaux virtuels qui ne statueront que sur des problématiques virtuelles.
Deux heures à sculpter la lumière, Tom se déconnecte en douceur. Dans ce futur-là, le virtuel est devenu son oasis. Mais le réel peut aussi réserver des surprises. Tom partage cet appartement avec son père. Et manifestement, celui-ci aimerait davantage. Partager un repas ensemble, par exemple, ce serait un bon début. Ce soir, il a voulu renouer avec une vieille tradition du début du siècle, le dîner aux chandelles. Si dans le monde réel, père et fils partagent la même pièce, dans leur vie virtuelle, ils ne sont rien l'un pour l'autre. Et si son père le questionne maladroitement, Tom tient à ne pas mélanger les mondes. Insiste, pourraient partir en voyage virtuel tous les deux, dans un pays qu'ils auraient conçu ensemble, ou bien élaborer un scénario de fiction pour leurs deux avatars. Mais pour le jeune homme, c'est hors de question. La vie de son avatar, c'est son jardin secret. Si alternatif, il n'y a plus de jardin secret. Les univers virtuels de Tom sont des outils de contrôle et de surveillance. Dans le virtuel comme dans le réel, Tom est constamment observé, géolocalisé, analysé, comme chacun des 250 millions d'habitants de cette mégalopole. La dystopie qui n'est peut-être pas si lointaine, le mythe d'un monde numérique libre et accessible à tous, a vécu. Par trouver un moyen de contourner le système. En explorant les bâtiments abandonnés de la cité universitaire, il a remarqué une porte dissimulée dans les décombres. Il se réfugie ici dès qu'il en a l'occasion. Sous cette bâche, une antiquité. Un serveur informatique du début du siècle. À l'aide d'un simple générateur, Tom a réussi à réveiller ce système endormi depuis 50 ans. Il a ouvert un trésor, l'histoire du génie de l'humanité, tout ce qu'elle a produit depuis des siècles en matière de culture, et qu'on nous cache désormais, en 2080. Depuis, Tom se plonge des heures durant dans ce trésor de liberté, loin d'un métavers gangréné par la censure. En 2080, qui contrôlera nos mondes numériques ?
Le métaverse soulève toute une série de questions. Qui le contrôle? Qui prend les décisions en matière de créativité? Comment ces outils sont développés? Et puis se pose aussi le problème du monopole de ces grosses entreprises. C'est elles qui vont décider de la place que prendront le métaverse et l'intelligence artificielle dans nos vies.
Une fois que le monde numérique sera devenu aussi important que le monde réel, voire même plus, en termes de temps passé, la question de savoir qui conçoit ces mondes, qui décide de leur contenu, va devenir encore plus cruciale. Parce que l'impact que cette immersion virtuelle aura dans nos vies va être vraiment dingue.
Alors en effet, dans l'avenir, le problème, c'est que le développement des mondes virtuels n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est le propriétaire de l'univers et ses objectifs. Une fois encore, ces objectifs sont forcément à minima mercantiles, mais aussi idéologiques ou politiques. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire en sorte de développer, d'exacerber, par exemple, le sentiment d'insécurité lié à une ethnie particulière. Et en fonction de la visée du concepteur du jeu ou de l'univers, on pourrait changer d'opinion politique dans le réel. Je pourrais très bien vivre dans un monde tel que l'aurait imaginé Adolf Hitler s'il avait gagné la guerre. Et rien actuellement ne permet d'empêcher, on va dire, un groupe de personnes de concevoir un tel métavers. Donc, qui serait discriminatoire, antisémite, etc. Et le problème est là. Certains diront que c'est rien, c'est du virtuel. Ben non, c'est pas rien du tout.
Un des enjeux du futur, c'est en effet la question de la manipulation, mais surtout l'intelligence artificielle. Donc on peut imaginer que si on ouvre la boîte de Pandore de l'intelligence artificielle forte, nous aurons donc, par exemple, des robots psy, puisque ça existe déjà, des intelligences artificielles psy, qui vont pouvoir collecter des informations beaucoup plus intimes, personnelles, et vont utiliser ces données pour peut-être créer, je dirais, une influence, des manipulations de masse, aussi bien pour des raisons politiques que économiques. Et là où ça peut aller encore beaucoup plus loin, c'est que Peut-être que ces robots psy pourraient encourager la mort de ces patients. On ne sait pas. De pousser les gens au désespoir ou à la dépression, vous imaginez ce que ça pourrait créer. Donc ce qui est vrai, c'est que c'est intéressant la science-fiction parce qu'elle nous donne l'anticipation, nous donne des clés de comprendre ce qui pourrait se passer. Et le pire, entre autres, là.
Il ne sert à rien d'opposer le virtuel et le réel quand on peut les marier. Cette fête se déroule en réalité mixte. Elle permet de réunir ceux qui sont physiquement présents et ceux qui le sont à travers leurs avatars. Io, l'avatar de notre étudiant, y occupe une place d'honneur. Avec ses 8 millions d'abonnés, la présence de l'artiste à ce mariage est un événement. Si le marié est bien là physiquement, son épouse, présente virtuellement, n'est visible qu'à travers des lentilles connectées. L'avatar de Tom est invité à se produire devant tous les convives. Le jeune homme l'ignore, mais son propre père a lui aussi été invité. Or aussi, c'est que son père suit secrètement sa carrière d'artiste virtuel depuis ses débuts. C'est même l'un de